Bonjour en tout cas et bonjour à tous. Aujourd'hui, Jean Gabin, 30 ans après.
Hospitalisé samedi à l'hôpital américain de Neuilly, Jean Gabin est mort ce matin d'une crise cardiaque. Il avait 72 ans. C'est un véritable professionnel du cinéma que saluent tous ceux qui ont pu travailler avec lui.
D'histoire. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 15 novembre 1976, les Français apprenaient la mort du plus populaire de leurs acteurs. Certains se souvenaient de Pépé le Moko, du conducteur de locomotive, de la bête humaine, du lieutenant maréchal de la Grande Illusion, de l'amoureux de Michel Morgan dans Quai des Brumes, et de tous ces films des années 30 dans lesquels Jean Gabin avait incarné les espoirs et les illusions du Front Populaire. Les plus jeunes l'avaient découvert plus tard dans les rôles de Maigret, du Président, ou avec Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, dans Touchez pas au Grisby, Un singe en hiver ou Mélodie en sous-sol. Mais peu de gens connaissaient l'homme pudique qui attachait moins d'importance au cinéma qu'à sa famille, à ses amis et à sa vie privée, et qui parlait rarement de son passé. Quand le jeune Jean Moncorgé ne s'appelait pas encore Jean Gabin et qu'il rêvait d'autre chose que de devenir comédien comme son père.
J'étais manœuvre et magasinier. J'ai commencé à travailler à 14 ans, moi. Ce qui m'empêchait pas de ne pas gagner tellement d'argent, mais d'avoir une vie très agréable. Ça m'empêchait pas d'aller danser avec les filles. Ça m'empêchait pas d'aller jouer au football. Moi, j'étais très heureux. Ce métier-là, je voulais pas le faire, moi. À l'encontre de tous les gars qui ont voulu faire ce métier, moi, je voulais pas le faire. Parce que je voyais mon père apprendre ses rôles, parce que mon père était dans le métier. Ma mère aussi, elle fait son tour de champ. Moi, je suis un gars de la balle. Moi, je voulais être mécanicien de locomotive à 17 ans.
Elle est belle, ma machine, hein. Vous savez que c'est peut-être la plus belle machine du réseau, la meilleure.
Vous l'aimez, votre machine?
On a eu tellement de choses ensemble.
Et c'est au cinéma, dans La Bête humaine, que Jean Gabin deviendra mécanicien de locomotive et célèbre, comme le rappelle mon invité d'aujourd'hui dans un livre qui vient de sortir aux éditions City, Jean Gabin dans le siècle. Marc Lemonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre livre, vous rappelez toute la carrière de Gabin, ses débuts difficiles, la gloire venue dans les années 30, son engagement dans la France libre pendant la guerre. Et il a, dites-vous, à lui seul, incarné tout le XXe siècle. Pourquoi ?
Oui, parce qu'il c'est un acteur essentiellement français. Sur ses 95 films, il a dû jouer 91 ou 92 rôles de français. Presque toujours des films contemporains, qui se passent dans le temps où ils sont tournés. Et il a interprété à peu près toutes les strates de la société, depuis le jeune Marlou, l'ouvrier, le juge, l'assassin, mais aussi des gens de la classe moyenne, ce qui fait que chaque Français peut se reconnaître dans au moins un rôle, une période, un âge de Gabin, et qu'il nous représente d'une certaine manière. Et surtout, il a une carrière qui va des années 30 jusqu'aux années 74-75. Donc, il a traversé le cœur du siècle, la partie où les plus grandes mutations se sont déroulées pour notre pays, et donc il incarne ce pays.
Alors, il est né en 1904 dans une famille de comédiens, alors ce qui aurait dû en principe le prédisposer à le devenir lui aussi, pas du tout, hein, contrairement à d'autres, on l'a d'ailleurs entendu le dire lui-même, il n'est pas du tout envie de faire du cinéma.
Exemple rarissime de type qui veut pas devenir comédien alors que son père le pousse à le faire. Et d'ailleurs, son père organise une stratégie très compliquée. Il lui fait croire qu'il lui organise un rendez-vous dans un garage. Et en fait, c'est aux Folies Bergères. Donc, il le pousse à devenir comédien.
Et à le faire monter sur les planches. Alors, non pas pour y faire du cinéma, mais pour faire ses débuts en chantant dans les années 1920 avec quelques gloires du musical de l'époque, dont la plus connue était Miss Target.
Lorsque l'on voit mon frère qui est noir, qui va se mêler moi,
je me dis comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a qui fait qu'elle paraît belle et qu'on se retourne sur elle.
C'est un rien, voyez-vous, c'est un rien, et c'est tout car ce rien qui me fait.
ces deux accroche-cœurs, quelle splendeur, ses mollets rondelets.
Ben, je crois, presque en soi,
c'est ma voix, mieux que des dentelles.
De toute nuit gaie, et ça fête les fêtes, oh oui,
c'est un rien, mais combien, c'est parisien.
Petite perle hein, de dans nos archives, c'est un rien, un petit rien, Mistinguette et Jean Gabin dont on oublie, mais vous le rappelez, Marc Le Meunier, qu'il a commencé d'abord par chanter, par danser, plutôt pas mal d'ailleurs, hein, même si ça a un peu vieilli aujourd'hui.
Oui, c'est, mais il a découvert sa vocation en la faisant. Il avait un modèle, là c'est évident, c'est Maurice Chevalier. D'ailleurs, le fait qu'il
roule
les airs, mais tout le monde roule les airs, tout le monde voulait ressembler à Maurice Chevalier, qui était la vedette parmi les vedettes. L'attrait qu'a eu Mistinguette pour Gabin est sans doute lié au fait qu'elle venait de rompre avec Chevalier, qu'elle a trouvé en Gabin un chevalier de substitution, en tout cas sur le plan professionnel. Mais il a eu des premiers rôles, il interprétait des jeunes gandins dans des spectacles dont on n'a plus idée, qui sont des revues, dont on a très peu de traces au cinéma, puisqu'il chante rarement, un peu dans Pépé le Moko, un peu dans ses premiers films. Et on aurait aimé voir ça, parce que visiblement, il avait l'air d'être à l'aise, d'incarner le beau gosse pas compliqué, entouré de jolies filles. Donc c'était là l'une des vedettes montantes, au moment où le cinéma l'a un peu rattrapé par la manche, c'était l'une des vedettes montantes du musical, et il commençait à éclipser son père, ce qui devait poser quelques problèmes à table.
Oui, son père qui était surtout connu au musical. D'ailleurs, c'est son père qui avait trouvé le pseudonyme de Jean Gabin.
Qui est un prénom breton. Hein.
Oui, il s'appelait Moncorgé, son père comme lui-même, d'ailleurs s'est appelé longtemps Moncorgé, et il s'est appelé Jean Moncorgé, alors Jean Gabin plutôt, à cause de ce nom trouvé par son père. Alors c'est une expérience qui va être interrompue par le service militaire, il découvre la marine dans les fusiliers marins, il n'en a pas gardé d'ailleurs, on le verra, un mauvais souvenir, et puis alors par le cinéma, il découvre en effet le cinéma, Marc Le Meunier, d'ailleurs, au coup de pause, si on peut dire, au moment précis où le cinéma lui-même découvre le parlant. Son premier film date de 1929.
Oui, c'était une période assez compliquée du cinéma aussi, même sur le plan pratique. C'est-à-dire que tous les films étaient en double, voire triple édition. C'est-à-dire que sur le même plateau, on tournait la version française, la version allemande, la version anglaise. Il y avait plusieurs acteurs qui jouaient les mêmes rôles. Enfin, c'était assez compliqué. Et Gabin, dans ses 4-5 premières années, joue des films qui sont un peu secondaires, mis à part les Gaîtés de l'Escadron, on les a quasiment tous oubliés. Mais il apprend le truc. Et c'est sans doute le premier acteur, en tout cas en France, qui comprend que jouer devant une caméra de film parlant, c'est pas la même chose que de jouer devant un public de bastringue, c'est pas la même chose que jouer devant un public de film muet. Et si je citais les Gaîtés de l'Escadron, c'est parce que là, c'est évident. D'un côté, il y a Rému qui en fait 4 tonnes, il y a Carrette qui en fait des caisses, il y a Fernandel qui roule les airs et qui roule les yeux. Et Gabin, lui, il est hyper cool. Il joue ça naturel. En tout cas, c'est ce qui apparaît à l'écran. On a l'impression qu'il est naturel, mais au contraire, c'est très étudié. Il parle bas, il a une espèce d'élégance de la vie quotidienne, et ça change tout, il invente le cinéma.
Alors les Gaîtés de l'Escadron, ça fait partie des 19 premiers films sur les 95 qu'il a tourné au total, vous les rappelez d'ailleurs dans votre filmographie aussi, Marc Le Meunier, mais c'est pas encore un grand succès. Le succès, il va venir dans les années 30 avec les plus grands films du cinéma français de l'époque, La Bandera et Pépé le Moko, et La Belle Équipe de Julien Duvivier, La Grande Illusion et La Bête Humaine de Jean Renoir, et aussi avec Carnet, Le Jour se lève et Quai des Brumes, des premiers grands films dont plus tard, des premiers succès aussi, dont plus tard Henri Verneuil expliquera pourquoi justement ils avaient eu du succès.
Henri Verneuil, qu'est-ce qu'il y avait chez Jean Gabin qui a pu et su tout de suite toucher le public au cœur?
Son côté populaire d'abord, ses origines, et puis cette justesse. J'ai fait 5 films avec lui, je ne l'ai jamais entendu parler faux. Il ramenait tout à Gabin, c'est-à-dire comment Jean Gabin se comporterait dans telle situation. Alors, à partir de ce moment, il devenait naturel, il devenait le Gabin de tous les jours.
T'as pas faim ?
Non, j'ai envie de rien. Je suis bien.
C'est vrai ? T'es bien avec moi ?
Ah, vous ne pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux.
Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dis comme ça à moi, ben, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Jean Gabin, Michel Morgan, Quai des Brumes, T'as de beaux yeux, tu sais. Alors tout le monde connaît ça, des phrases très banales, hein. Tous les amoureux du monde ont dû se dire ça un jour. Qu'est-ce qui fait qu'avec Jean Gabin, avec Michel Morgan, c'est devenu une des répliques les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma?
Mais tout y est. Le texte est superbement écrit, parce que derrière le naturel, il y a un texte écrit, remarquablement écrit. Il y a la caractéristique particulière de Michel Morgan, c'est qu'elle est sublime, elle est tout simplement magnifique. Elle a 17 ans, elle est très très belle. Et Gabin incarne une forme de virilité en quelle tout homme devait avoir envie de se reconnaître. Il a 35 ans, il est beau gosse, il est sûr de lui. Donc toutes ces un mec superbe, une fille délicieuse, cette atmosphère très particulière, en plus ça se passe sous la pluie, il y a tous les ingrédients du romantisme absolu, ils sont, mis à part Bogart et
Lorraine Bacall.
Lorraine Bacall, bon, on n'a rien fait de mieux. Quoi. Ouais.
Il y a aussi le fait que c'est pas seulement joué, ils éprouvaient quelque chose l'un pour l'autre, Michel
Bien sûr,
Morgan et Jean Gabin.
Ils ont eu une aventure, comme on dit, qui a été interrompue par la guerre, et qui elle aussi était mythique, c'est-à-dire le réel, la fiction se mêlait un peu. Quoi.
Alors Quai des Brumes, ça fait partie de toute cette série de films, après avoir tourné 19 films médiocres, voilà que l'espace de 5 ans, il va tourner quelques-uns des plus grands films du cinéma, je les ai cités à l'instant, et puis, La Bandera, Pépé le Moko, La Belle Équipe, où il se met à chanter, je crois que c'est la dernière fois qu'il chantera, La Grande Illusion, La Bête Humaine, c'est fabuleux, toute cette série de films extraordinaires, avec des réalisateurs extraordinaires, dans des rôles, d'ailleurs, qui sont toujours des rôles populaires, hein. Il est sableur, dans Le Jour se lève, il est mécanicien dans La Bête Humaine, on l'a entendu, et dans La Grande Illusion aussi, où il est lieutenant en même temps pendant la guerre, ouvrier au chômage, dans La Belle Équipe. Au fond, on a dit qu'il avait incarné aussi le Front Populaire.
Oui, mais il incarne un Front Populaire tragique. C'est-à-dire que la plupart des personnages dont vous venez de parler ont tous un destin tragique. Soit ils meurent à la fin, soit ils se suicident comme le héros de La Bête Humaine. Mis à part Maréchal qui dans La Grande Illusion s'évade, la plupart des autres ont des destins tragique. Donc il incarne à la fois une classe sociale, mais aussi ce destin qui est en train de basculer. C'est pas tellement le Front Populaire qu'il incarne, c'est son échec. Il incarne aussi la peur du lendemain, et une peur justifiée, puisque ça s'est terminé par la guerre.
Plus de comédie, d'ailleurs, il en jouait plus du tout à ce moment-là, il retrouvera ça plus tard.
Hein, ah oui, il a fallu attendre 20 ans avant même qu'il se remette à rire au cinéma.
Mais c'est fou, là, il est très demandé, les plus grands réalisateurs le demandent, et il sort vraiment de l'anonymat à ce moment-là, il est extrêmement populaire. Et alors, c'est à ce moment-là que la guerre éclate. Il tourne un dernier film juste avant, avec Remorque. La guerre éclate, la France est envahie, et Gabin s'en va. Pas question pour lui, alors que tous les grands acteurs sont restés, ou presque, tous les grands réalisateurs ont continué de tourner avec la Continentale allemande. Lui, il refuse, il part aux États-Unis.
J'ai fait une liste qui est cruelle. J'ai fait la liste des gens qui ont suivi son exemple. Enfin, qui n'ont pas suivi son exemple, qui ont fait la même chose que lui. Ils sont rarissimes. Jouvet est parti en pseudo-tournée à l'étranger. Jean-Pierre Aumont s'est engagé aussi. D'ailleurs, ils se sont un peu croisés dans les forces françaises libres. Mais il faut bien dire qu'ils sont rares. Et ça n'était pas une posture. Je pense que Gabin s'est réellement engagé par conviction, parce qu'il avait l'impression qu'il ne voulait pas être inutile dans les circonstances passées. Il avait 40 ans quasiment. Donc c'est pas un gamin qui part sur un coup de tête, c'est un homme mûr qui a une carrière derrière lui, qui a sans doute un peu d'argent, qui pourrait rester tranquille à Hollywood, et pourtant il monte sur un bateau alors qu'il a le mal de mer, et après il va s'enfermer dans un char alors qu'il est claustrophobe. Donc il cherche, quoi. Et il a une carrière militaire qui est tout à fait exemplaire, parce que
c'était pas du cinéma.
C'était pas non plus du spectacle donné aux militaires à l'arrière pour les distraire. Non, il était dans des unités combattantes, et en plus il ne la ramenait pas, disons-le. Il n'a jamais fait vraiment état de ces raisons de gloire qui en a eu. Bon, c'est un héros.
Il est arrivé en 45 jusqu'au Berghoft de Hitler à Berchtesgaden. C'était quand même quelque chose.
Je citais Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont a participé à la libération du sud de la France. Gabin est allé jusqu'au pied du nid d'aigle. Donc voilà, c'est pas de la guerre en dentelle.
Et avec ce détail amusant, si c'est de la guerre en dentelle, à un moment donné, vous le rappelez, Marc Le Meunier, c'est l'arrivée dans son régiment. On est à la fin de la guerre, qui vient le voir, Marlène Dietrich. Alors, l'aventure avait commencé
en uniforme, pas en dentelle.
Oui, parce qu'elle était correspondante de guerre. Mais il vient la voir comme ça. Elle vient le voir sur le front. Enfin, c'est absolument insensé, cette scène. Et cet amour, d'ailleurs, qui va se poursuivre juste après la guerre. Marlène Dietrich, c'est un grand moment, évidemment, de sa vie.
Je crois que Gabin était un grand moment pour Dietrich, en tout cas. Elle a toujours dit, elle, qui était une femme à homme, les a collectionnés quand même. Et je crois que ça a été l'un des hommes de sa vie avec Remarque. Et alors que Gabin, on peut avoir des doutes.
Oui, enfin, cela dit, bon, ça a duré quand même un certain temps. Et puis finalement, il la quitte, hein, mais il est malheureux de la quitter, mais il la quitte. Et puis alors, il se case réellement pour de bon en 1949.
Pépé le Mocon se marie. Et oubliant pour une fois de jouer les durs, Jean Gabin a prononcé le oui fatidique et traditionnel en faveur de Mademoiselle Dominique Fournier, ex-mannequin. Un épilogue que les scénaristes avaient toujours refusé à Jean Gabin.
Entraîné par la passion et curieux de sensation, j'ai fait un mariage d'inclination avec une femme ultra chic. Et quand nous sommes en public, sans me vanter, sa beauté flatte ma vanité.
C'est moi le mari, chanté par Gabin en 1930, c'est-à-dire 19 ans avant son mariage avec Dominique Fournier, mais qui était un mariage, comme il vient de le dire dans cette chanson des années 30, un mariage d'inclination, Marc de Meunier. Cette fois-ci, c'était sérieux et c'était pour de bon.
Ah, je pense, oui, je veux pas parler à sa place, mais oui, il a fondé une famille et il a eu des enfants, il a acheté des maisons, cet homme qui était toujours en mouvement et en mouvement jusqu'au fond de l'Allemagne nazie, s'est arrêté, s'est posé. Et ça a aussi coïncidé à une période de sa carrière qui était un peu en demi-teinte, au retour de la guerre, les gens... C'est lui qui le disait. Cela dit, des périodes grises comme ça, je connais des tas d'acteurs qui aimeraient bien en avoir, parce qu'il a quand même tourné avec Ophuls, etc. Donc, bon, c'était une période un peu en retrait par rapport à la gloire qu'il avait connue avant-guerre. Mais oui, il s'est installé dans une vie un peu bourgeoise, un peu rurale. Il a acheté des maisons à Deauville, ensuite des propriétés. Donc, c'était un autre homme. Mmh. Et au cinéma, il a fallu un temps pour que cet homme privé apparaissent à l'écran. C'est-à-dire que les cinéastes attendaient encore Pépé le Moko et ils avaient une espèce de bourgeois installé. Donc il a fallu que les cinéastes s'acclimatent à ce nouveau personnage et le public aussi. Et puis ça a donné
il a plus à faire, enfin si ça s'est produit, ça s'est reproduit, mais aux grands réalisateurs des années 30, hein. Et puis il accepte lui-même des films qui sont assez médiocres. Martin Omagnac, il a tourné une seule fois avec Marlène Dietrich, vous me direz c'est peut-être elle qui a mal joué, mais ça a pas été un succès, c'était en 1946, et comme ça a duré quand même pendant 8 ans, Marc Le Meunier.
Ça a duré pendant 8 ans, mais pendant ces 8 ans, il y a aussi des pépites. Quand on voit le sketch central du plaisir de Max Ophuls, il joue un paysan normand. Alors il rentre dans la peau du paysan avec un naturel qu'on peut supposer être celui du paysan qu'il allait essayer d'être dans la vie quelques temps plus tôt. Quand il joue French Cancan de Renoir, où là par contre il est un patron de musical, où il retrouve toute sa jeunesse, on a l'impression que ce patron de musical, c'est un hommage rendu à son père, c'est un hommage rendu à sa jeunesse. C'est quand même magnifique. Il est vrai que par ailleurs, dans le même temps, il tourne des films, deux ou trois films italiens qu'on voit rarement et on a raison de pas trop les voir.
Vous les avez vus, je crois que vous avez tout visionné, pratiquement tout ce qui était visible.
Quand on le voit, on se dit c'est quand même Gabin, c'est le film qui est en cause, c'est pas Gabin. Le talent de Gabin, c'est l'une des caractéristiques de sa carrière, du premier au dernier film, il y a toujours quelque chose à tirer, si j'ose dire. Il y a toujours une scène sublime, il y a toujours un moment de cinéma qui justifie qu'on voit un film pas terrible par ailleurs.
Alors le succès va revenir en 1954 avec de nouveaux rôles, celui d'un gangster dans Touchez pas au Grisby, ou encore celui d'un célèbre flic désabusé, comme Gabin l'était un peu devenu, et doutant de lui-même dans un crime dont il n'arrivait pas à trouver le coupable.
On a interrogé des dizaines de types, même un boucher. Mais enfin, je crois qu'il est innocent. Ben, moi, je me souhaite tromper, c'est encore possible. Après tout, il n'y a peut-être pas que pour les cafetières que j'ai vu le coup d'œil. Oh, je suis fatigué, Louis. Fatigué. Je te jure, ce sont la retraite.
Eh ben, prenons-le. J'en connais un au moins qui se fera plaisir. Ta crapule. Faut t'avouer que c'est un succès. 4 crimes au 4e, le père Maigret qui part pour la pêche. Il devait déjà se prendre pour quelqu'un, mais alors maintenant. Mais s'il est un peu orgueilleux, il doit pas passer. Ça sûrement.
Orgueilleux.
Ben pourquoi ne serait-il pas?
Alors, police secours. Ici commissaire Maigret, passez-moi l'état-major.
Et c'était Gabin dans la peau de Maigret. D'ailleurs, à moins que ce soit le contraire, vous citez Marc Le Meunier cette phrase de Simenon, qui a beaucoup aimé l'interprétation de Maigret par Gabin et qui disait que maintenant, je ne vois plus penser à Maigret qu'à travers Gabin.
Mais Gabin a donné à Maigret une espèce de virilité, d'épaisseur, qui est sous-jacente dans les romans, mais qui n'apparaissait pas dans les précédentes incarnations. Quand on voyait le frère de Renoir ou Harry Borg, c'était un joueur Maigret, c'était toujours des gens un peu âgés, alors que pour devenir patron de la brigade criminelle, il faut quand même avoir une carrure, une envergure, une autorité que Gabin apportait au rôle, et ça faisait pas vraiment dévier le personnage vers autre chose. Au contraire, ça le nourrissait, et je crois que Simenon avait un peu raison, oui.
Alors il y a aussi, il faut le rappeler, ne serait-ce que pour ce Maigret, hein, qui était le premier des trois, c'est d'ailleurs la seule fois où Gabin a joué le même rôle plusieurs fois.
C'est son seul personnage récurrent, comme on dit aujourd'hui. Oui.
Et il y avait un scénario de quelqu'un qui, avec lequel il va faire encore 19 films, c'est Audiard. Audiard qui a beaucoup compté, qui était plus d'ailleurs qu'un dialoguiste, c'était un copain aussi.
Ça a été une rencontre qui a figé d'une certaine manière Gabin dans une manière de s'exprimer, dans un type de personnage. Donc on peut dire qu'elle a un petit peu fossilisé sa carrière, quoi. Il y a un moment où Gabin n'a plus fait que de l'Audiard. Mais en même temps, cette rencontre a produit des films dans lesquels les deux ensemble ont inventé quasiment une nouvelle poésie. C'est-à-dire, Gabin parlait de l'Audiard, Audiard parlait du Gabin. Il y a une manière de s'exprimer faussement populaire qui s'est imposée comme étant une nouvelle forme de littérature qui serait l'adaptation cinématographique dans la lignée de Janson, etc., même dans la lignée de Céline. Enfin, on peut trouver une manière de parler le français différente. Ces deux hommes ont inventé une langue.
Il y a aussi quand même de grands metteurs en scène. Il y a eu Verneuil qu'on a entendu parler tout à l'heure. Il y a eu de très grands films, toujours un peu les mêmes rôles d'ailleurs, un flic, voyou, patriarche aussi dans un film qu'il a bien joué, moi je trouve, parce qu'il se trouve que j'ai pu le connaître à cette époque-là. Mais quand il joue La Horse ou quand il joue L'Affaire Dominici, c'est le paysan qu'il était dans la vie de tous les jours.
C'est deux films qui ont l'air de laisser. On a l'impression que c'est lui, quoi. Il n'a pas besoin de se faire violence pour devenir le patron de La Horse. En revanche, Dominici, c'est un peu différent, parce que là, Dominici, c'est quelqu'un qui était très très présent dans la mémoire des Français au moment du film. Ça fait 15 ans, c'était un fait divers immense, dans le genre, un des faits divers du siècle. Donc les gens l'avaient beaucoup vu au cinéma, beaucoup vu de photos. Et Gabin s'abandonne, au contraire. J'ai l'impression qu'il rentre, il se laisse porter par ce personnage, qui est un des rares personnages réels qu'il ait joué. Mmh. C'est un moment où Gabin est foncièrement acteur. Mmh. Même si on a l'impression que c'est Gabin qui joue du Gabin, c'est, à mon sens, l'une de ses plus grandes performances d'acteur, en tout cas dans la deuxième partie de sa carrière.
Alors qu'il soit flic ou voyou ou propriétaire terrien, justement, c'est un peu toujours le même, un bougon, râleur, vous le dites, mais aussi plein d'humour, bon vivant, aimant la bonne chair, aimant le bon vin aussi. Il y a quelqu'un un jour qui lui disait, qui lui proposait de boire un verre de lait, et Gabin lui a répondu « Je boirai du lait quand mes vaches mangeront du raisin. » Hein, c'était un personnage assez extraordinaire, d'ailleurs, dans le privé. C'était, semble-t-il, quelqu'un qui, effectivement, était quand même râleur.
Hein. Je pense que c'est cette truculence qui plaisait aux Français, parce qu'ils avaient envie. Il incarne une espèce de filiation, hein. Depuis Gargantua, en France, il y a une espèce de personnage qui est très très français, qui est le bon vivant, justement. Et Gabin, pendant une période de sa carrière, l'a incarné, alors au quart de poil près, quoi. C'était lui, c'était le grand-père idéal. Et en même temps, c'était un personnage qui était, à l'écran, en tout cas, un peu rétrograde, qui symbolisait une phrase un peu immobile, alors qu'on était en période gaulliste, qui était une période qui se modernisait. La France était en action. Et lui, il incarnait une forme d'immobilisme aussi.
Et fidèle aussi en amitié et à son passé de marin, lorsqu'en 1975, un an avant sa mort, Jean Gabin accompagnait son fils Mathias, qui faisait son service sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc.
Jean, ici venu des jeunes, et le commandant Gédinet était mon pacha, comme on dit dans la marine, pendant la guerre. Il était au régiment blindé de fusiliers marins, il commandait mon escadron. La marine est une arme formidable, c'est une arme magnifique, de laquelle je garde un magnifique souvenir, aussi bien de mon actif que pendant la guerre. Il y a une très grande camaraderie, les gars sont très bien.
Vous avez l'impression aujourd'hui de revivre un peu une page de votre jeunesse?
Ah, mais ça me rajeunit d'être là. Ça me rajeunit, mais je me sens 20 ans aujourd'hui.
Amiral Guépoil, un gloire des fusillés marins d'Extrême-Orient.
Allez, Pierre et moi t'avons invité.
Occupe la bleusaille, j'ai touché mon arriéré de solde alors, hein.
Bon, ben allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein, allez, viens.
Et c'était Jean Gabin dans un Saint-Jean-Hiver avec Belmondo, dont il disait qu'il était son fils. Et vous dites vous-même qu'à l'époque, il était devenu le père du cinéma français.
Oui, parce que ça n'a jamais été quelqu'un d'égoïste. Chaque fois qu'il repérait dans les films dans lesquels il tournait un jeune acteur dont il pensait qu'il valait le coup, il le mettait en avant, il lui faisait rencontrer des metteurs en scène, il le valorisait et il s'arrangeait pour qu'ils aient des scènes communes dans lesquelles les deux pouvaient jouer quasiment à égalité. Et il a eu des spirituel, des gens.
Il y a eu trois cas importants, vous le dites, en ce qui concerne les comédiens. Lino Ventura, ils étaient très liés d'ailleurs.
Qui était sportif, c'est un comédien de rencontre, lui aussi, un comédien accidentel. Donc Gabin l'a encouragé à trouver cette voix qui a été une voix magnifique.
Il l'a découvert dans Touchez pas au Grisby. Il y a eu Alain Delon aussi, deux films importants, Mélodie en sous-sol, Le clan des Siciliens
et
aussi.
Et deux films, pas plus. Ouais. Ce qui veut dire que il leur mettait le pied à l'étrier. Il ne les coachait pas, quoi. Il les lançait dans la carrière. Ouais.
Et puis Belmondo, très très attaché aussi à Jean Gabin, alors qu'il était connu. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Belmondo s'est fait connaître avec La Nouvelle Vague. Jean Gabin disait pique-pente de cette Nouvelle Vague.
Oui, mais en même temps, Brunelin raconte qu'il aurait bien aimé.
Brunelin, son biographe.
Aussi. Oui, c'est le biographe de Gabin, qu'il aurait bien aimé qu'on lui propose des films aussi et qu'il les aurait fait volontiers parce qu'il se sentait proche de la jeunesse. Et puis il y a un dernier acteur que Gabin a croisé très brièvement dans l'affaire Dominici, dont il avait repéré immédiatement qu'il avait quelque chose, c'est Depardieu. Et si on cherchait des successeurs à Gabin aujourd'hui, c'est certainement à Depardieu qu'on songerait, qui commence à avoir une carrière de la même ampleur, qui a ce côté aussi Falstaff, de personnage démesuré, qui peut jouer à peu près toutes les catégories sociales, et qui incarne cette autre France, cette France qui commence avec les valseuses et qui se poursuit aujourd'hui, qui est la France du fin du... On a l'impression qu'il y a un passage de relais, là.
Depardieu, c'est le Gabin d'aujourd'hui.
Il faudrait voir la fin de sa carrière, mais c'est le seul acteur français qui ait eu la même dimension, et pour les cinéastes, et dans le cœur des gens depuis.
Successeur de Jean Gabin, qui nous a quittés il y a 30 ans, jour pour jour.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais.
Jean Gabin dans le siècle, c'est le titre d'un livre illustré de très belles photos et publié aux éditions City et signé par mon invité d'aujourd'hui, Marc Lemeunier. J'en recommande la lecture. À lire également Gabin, le cinéma, le peuple de Bernard Sichert, publié chez Marencel Éditeur. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La bête humaine de Jean Renoir et Quai des brumes de Marcel Carné, tous deux disponibles en DVD aux éditions Studio Canal, ainsi que Maigret tend un piège de Jean Delannoy en DVD chez René Château Vidéo. Le mariage de Gabin était une archive pâtée de 1949 aux éditions Montparnasse. Et la chanson de Gabin avec Mistinguette et celle que vous entendez en ce moment sont tirées de l'intégrale Jean Gabin aux éditions Frémaux et Associés. Et maintenant, la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro. Pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro, répondez à la question du jour. Jean Gabin a tourné avec Jean Renoir, fils du célèbre peintre. Quel tableau a peint Pierre-Auguste Renoir en 1876? Le déjeuner des canotiers, le moulin de la Guélette ou Lise à l'ombrelle? Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pascal Baldassari et Rémi Quincé, documentation et archives sonores Claire Destaclan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac.